Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos émissions consacrées à notre partenaire Codex. Codex, 2000 ans d'aventure chrétienne, cette revue trimestrielle donc qui est disponible en kiosque. Priscille Delassus, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à ce micro. Et Priscille, vous avez consacré votre dernière livraison à un sujet extrêmement, on va dire, important, qu'est Al-Andalus, la vie quotidienne des minorités, tel est le titre de ce dossier. Al-Andalus, dans la représentation que l'on peut avoir, on associe généralement le mot, la géographie, à l'Andalousie. Or, ce n'est absolument pas le cas. Que recoupe géographiquement le terme d'Al-Andalus ?
Alors en fait, géographiquement, Al-Andalus est finalement un concept mouvant puisqu'il s'agit du territoire qui a été occupé par par les Arabes dans la péninsule ibérique. Mais ce territoire a pu couvrir dans sa période d'expansion maximale les deux tiers de la péninsule jusqu'aux Pyrénées. Et au moment où il était dans son résidu le plus minuscule, finalement, est réduit presque à grenade, 5% du territoire. Donc on voit bien que derrière le même mot se cache finalement une géographie très fluctuante et en fait qui va dépendre des mouvements d'expansion, de recul, du rapport de force avec les royaumes chrétiens aussi, de l'avancée des conquérants berbères. Voilà, mais en fait ce qui compte, c'est cette domination arabe sur le territoire de la péninsule ibérique.
Alors, le terme d'arabe est très important. Nous allons voir après la différence entre arabisation et islamisation. Mais avant, peut-être un mot de ce qu'il y avait auparavant. C'est une domination qui se fait au détriment des royaumes wisigothiques, c'est bien cela ?
Oui, alors les conquérants n'arrivent pas dans un territoire vierge, il y a déjà des habitants. Et à cette époque, c'est finalement la gloire du royaume wisigothique. Les Wisigoths sont des peuples qui ont connu un long périple en Europe, arrivés initialement de Scandinavie, mais après de multiples détours. Ils sont arrivés dans la péninsule ibérique avec le soutien des Romains et ont fondé finalement un royaume puissant qui, dans les siècles précédents, a choisi le christianisme et puis a construit sa puissance, une puissance assez solide, qui était aussi reconnue pour ses arts, notamment de leurs favoris, de l'architecture. Et c'est ce royaume wisigoth que les conquérants vont finalement renverser et qui avait sa capitale à Tolède.
Nous sommes au début du 8e siècle ?
Oui, exactement. Alors les nouveaux venus arrivent exactement en 711. Ils débarquent dans la péninsule ibérique, pas nécessairement au début en fait avec l'intention de s'installer. C'était plus le principe des razzias. D'ailleurs, on voit qu'ils vont remonter assez loin. On les voit même à Carcassonne, on les voit à Nîmes très rapidement dès 718. On les voit aussi, c'est connu en France, à Poitiers en 732. Mais cette expansion très rapide, finalement, va permettre à certains de s'installer dans la péninsule, de se fixer, et notamment aux troupes berbères, parce qu'en fait, ces combattants, finalement, étaient, alors, pour les chefs des personnalités venues du monde arabe et même de la Perse, mais alors pour les troupes des berbères, c'est-à-dire des personnes converties finalement de fraîche date à l'islam, et voilà, qui ont pu trouver là des territoires à cultiver, notamment.
Alors, vous avez parlé de France, on va parler d'Espagne, on va mettre 30 guillemets avant et après les deux termes, puisque ce sont des réalités géographiques, en tous les cas nationales, qui ne sont pas encore existantes, mais on a bien un territoire qui correspond, à l'actuelle Espagne. Vous avez parlé d'arabisation. Est-ce que on peut mettre cette notion d'arabisation et d'islamisation sur le même pied d'égalité? Est-ce qu'on parle de deux choses différentes ou de deux choses au contraire très liées?
Alors, ce sont deux choses différentes d'abord, mais l'une peut entraîner l'autre. En fait, l'arabisation, c'est plus ce phénomène culturel d'adopter la langue d'abord, c'est-à-dire l'arabe, et puis les références des arabes, tout simplement. Donc, on peut être arabisé, par exemple, et rester chrétien, et ce sera le cas de ceux qu'on appelait les mots arabes, par exemple. Voilà, donc ce phénomène d'arabisation, il intervient assez rapidement et on se rend compte que dès le Xe siècle, finalement, les populations ibériques parlent couramment l'arabe et l'ont complètement intégré dans leur vie quotidienne. Ça, les archives le montrent bien, même s'il peut subsister du latin, notamment dans la pratique liturgique. L'islamisation, eh bien, c'est un phénomène religieux et c'est finalement la conversion à l'islam. Et là, le phénomène est plus lent. Alors, il y a des conversions dès le début, pas de conversion forcée ou alors extrêmement rarement. Mais en fait, on se rend compte qu'au fur et à mesure des siècles, ce phénomène d'islamisation va aussi advenir plus lentement que l'arabisation. Et c'est surtout à partir du Xe siècle que ça devient plus conséquent. Et alors, avec l'arrivée des nouveaux pouvoirs almoravides puis almohades au XIe siècle, eh bien, les chrétiens et les juifs sont...
persécutés.
Sont, oui, ou même persona non grata. Et du coup, on peut dire que le phénomène d'islamisation est achevé. Mais avant, ce n'était pas... une obligation du tout.
Donc il n'y a pas d'uniformité sur ces 8 siècles de présence arabe ou musulmane.
Exactement, c'est 8 siècles finalement très très variés, très divers, mais cela s'explique aussi par le fait que on aurait tendance à mettre dans un même sac tout le monde, mais en réalité, quand on parle d'arabe ou quand on parle de musulman, ce ne sont pas toujours les mêmes, et c'est ça qu'on a parfois du mal à imaginer. Ils ne viennent pas toujours du même endroit. Voilà, il y a comme une succession en fait de princes dominants qui arrivent. Ils ne viennent pas nécessairement des mêmes familles, ni des mêmes zones géographiques, ni des mêmes tendances religieuses. Et donc, il y a aussi des conflits ou des tiraillements au sein de ce milieu-là des conquérants, des dominants.
Alors, sans anticiper ce que nous allons dire sur, par exemple, la perte de Grenade, il y a bien ces divisions internes sont assez impressionnantes parce que c'est ce qui fait toute la difficulté du sujet et de l'approche de ce thème. Alors, Al-Andalus, c'est une mosaïque à la fois ethnique et religieuse qui fait la spécificité de cette zone géographique.
Oui, exactement. Alors, il y a... finalement, ce dont il faut bien prendre conscience, c'est que les Arabes sont assez minoritaires dans cette société, mais que c'est eux qui tiennent le pouvoir et qui organisent finalement la hiérarchie sociale. Alors, eux se trouvent bien sûr au sommet, c'est eux qui ont le pouvoir politique et militaire. En dessous d'eux, on pourrait dire, il y a d'autres musulmans, beaucoup de berbères, qu'ils ont tendance à mépriser un petit peu et qui, eux, sont beaucoup plutôt dans les zones agricoles, qui peuvent éventuellement se rebeller aussi contre le pouvoir arabe en place. Donc voilà pour, on pourrait dire, les conquérants, ceux qui sont arrivés historiquement de l'extérieur. Il y a d'autres musulmans encore qui sont les musulmans convertis et qui sont un peu, on pourrait dire, finalement des musulmans de seconde zone, parce qu'on se méfie toujours un peu de leur bonne foi. D'ailleurs, hein, encore une fois, c'est une population dans laquelle il y a eu pas mal de révoltes également. Et puis il y a tous les non-musulmans, ce qu'on appelle les dhimmi, donc à la fois des chrétiens mais aussi des juifs, et qui, pratiquant des religions du livre, ont un statut particulier, c'est-à-dire qu'ils sont libres de vivre sur le territoire, de pratiquer leur religion, d'avoir des synagogues, des mosquées. Cependant, ils ont des vraies contraintes. Ils doivent s'acquitter d'un impôt spécial. Ils doivent évidemment s'abstenir de faire du prosélytisme ou bien de parler mal du Coran ou du prophète, par exemple. Et puis, les constructions aussi de nouveaux édifices de culte sont très contrôlés. Alors voilà, on va dire quelque part la norme, et après elle est appliquée avec plus ou moins de rigueur selon les moments. On se rend bien compte que dans les périodes de tension, notamment avec les royaumes chrétiens, la politique est beaucoup plus ferme vis-à-vis de leurs co-religionnaires, afin d'éviter les révoltes, et puis un peu toujours la peur d'une troisième colonne en interne, qui pourrait représenter un danger.
Il y a aussi les esclaves, et les esclaves, par exemple, à la différence de la civilisation romaine, il est extrêmement difficile d'avoir des indications sur cette partie de la société, parce que ces hommes n'avaient strictement aucun statut.
Alors oui, on a peu d'archives finalement qui peuvent nous renseigner sur les esclaves. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont été très très nombreux. Bon, je peux prendre l'exemple de la cité Medinat al-Zahra près de Cordoue, qui a été construit par les califes et qui était vraiment une cité palatiale magnifique. Eh bien, bien sûr, elle a été construite avec des esclaves et il y avait de nombreux esclaves pour la vie quotidienne du palais. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que les esclaves étaient souvent d'origine slave. Voilà, et c'est d'ailleurs ce qui aurait donné ce mot esclave, voilà, alors que le latin dit servus. Et certains pouvaient monter très haut dans l'échelle sociale, ceux qui étaient cultivés, notamment il y avait certains esclaves très raffinés qui maîtrisaient la calligraphie, la poésie qui était un art extrêmement important en Al-Andalus. Voilà, donc ils pouvaient être extrêmement appréciés de leur maître, mais garder bien sûr un statut subalterne. Et en cas d'affranchissement, il restait, on pourrait dire, dans les cercles proches du maître, un peu toujours sous son influence, sous sa coupe.
Alors, le dossier a été réalisé par Adeline Rucquois, qui travaille au CNRS. Elle montre bien que c'est une société très hiérarchisée. Et encore une fois, même dans le monde musulman, il peut y avoir des séparations entre ce qu'on appellerait les vieux musulmans et les nouveaux musulmans d'un point de vue juridique, ont moins de droits que les vieux musulmans.
Oui, il y a ce côté-là qui est important. Et puis, on les soupçonne toujours d'être plus sujets aux dérives hétérodoxes, par exemple. Ils auraient peut-être une foi moins pure, plus mêlée de pensées un peu étranges. Et oui, il y a un certain mépris. On va leur reprocher leur apparence physique, leur langue, leur accent. Voilà, donc il y a des formes de ségrégation, le mot est peut-être fort, mais ce n'est pas un monde monolithe, ça c'est certain. Y compris chez les musulmans.
La place des chrétiens et des juifs, Aline Rucquois montre bien qu'il n'y a pas de ghetto en soi, que c'est une société qui est très mêlée. Est-ce que ces chrétiens sont protégés? Est-ce qu'ils doivent indiquer dans votre fameuse rubrique vrai ou faux, vous indiquez que notamment les juifs ont porté une étoile blanche qui était ancêtre en quelque sorte de l'étoile jaune contemporaine.
Oui, alors les juifs ont dû effectivement porter à un moment donné des signes distinctifs. Ouais.
Mais pas les chrétiens.
Et les chrétiens, non.
Donc quelle est la place des chrétiens? Étaient-ils protégés ou au contraire ont-ils subi à diverses reprises des persécutions? Alors, dans ce monde d'Al-Andalus,
il y en a eu des persécutions. On parle beaucoup notamment de l'épisode des martyrs de Cordoue, et même certains pouvaient rechercher le martyr. Là c'est dans les tout premiers temps de la conquête, hein, je crois au 9e siècle. Là encore, finalement, c'est assez fluctuant. Ça dépend du bon vouloir des politiques en place. Ça dépend aussi de la situation géopolitique plus générale. Mais c'est sûr qu'à partir du moment de la prise de Tolède, hein, en 1085, qui marque finalement l'avancée des royaumes chrétiens du Nord vers le sud. À partir de ce moment-là, on se rend bien compte qu'il y a des répressions beaucoup plus fortes envers les chrétiens, beaucoup plus de méfiance, et que le climat se tend.
Alors, ce qu'il y a d'intéressant de voir, c'est même aux origines, les juifs se sont assez rapidement ralliés en quelque sorte au nouveau régime arabe, et parce que tout simplement ils étaient persécutés dans le monde wisigothique. Les chrétiens, eux, sont divisés dans les premiers temps par rapport à ce monde arabe.
Oui, alors les juifs finalement ils ont trouvé leur compte, hein, parce qu'ils faisaient l'objet de persécutions, et aussi parce que finalement, ces nouveaux venus leur ouvraient les portes de la Méditerranée, et un lien avec aussi toutes les communautés du pourtour méditerranéen, ce qui a facilité leur rôle d'intermédiaire, et notamment au niveau du commerce. Donc, pour eux, finalement, c'était assez avantageux. Pour les chrétiens, eh bien, oui, il y a eu de la méfiance au début, des résistances, mais finalement, ça se passait pas si mal et ils pouvaient conserver leur religion. Et on observe au bout d'un certain temps que toute une partie, notamment de l'élite chrétienne, a comme une sorte de fascination pour cette culture orientale. Et c'est ce qui explique qu'il y a aussi un certain nombre de conversions, mais certains resteront... resteront un peu rebelles, un peu indépendants au fil des siècles. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, en Espagne, on peut trouver des descendants de ces mots arabes, qui cultivent un peu cette identité conservée envers et contre tout au fil des siècles.
Est-ce qu'on peut parler de tolérance dans le monde d'Al-Andalus? Parce que d'abord, le terme est anachronique, il n'apparaît qu'au XIVe siècle. Ouais. Donc là aussi, on va l'utiliser avec des guillemets. Il y a à la fois coexistence et période, en quelque sorte, de massacre et de persécution.
Oui, en fait, la tolérance n'est pas nécessairement un mot qui s'applique à cette époque-là. C'est une vision finalement très contemporaine des choses. On reste dans une société très organisée, chacun à sa place et peut vivre librement, en fait, dans la mesure où il sait rester à sa place. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pas une option philosophique de se dire que tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut, c'est que chacun finalement doit conserver la place qui est la sienne. Et l'islam se considère comme finalement détenant la vérité, comme étant la seule religion valable, et accepte quelque part qu'il y en ait d'autres, mais c'est une sorte de concession, on pourrait dire.
Ce qu'il y a d'intéressant. Mais,
et je me permets, il en est de même en fait dans la chrétienté médiévale. C'est pas du tout un concept. Qu'on peut appliquer au Moyen-Âge, en fait. Ça fait pas partie des mentalités.
Alors, il y a un terme qui est extrêmement intéressant, utilisé dans Paradine Rucois, Al-Andalus, frontière de l'islam. Et elle parle même de périphérie, elle utilise le mot de périphérie, et un des articles porte comme titre « Un îlot arabe coincé entre les infidèles et les sauvages ». Il ne faut pas voir Al-Andalus, oui, c'est un monde arabe, oui, c'est un monde où l'islamisation a progressé au fil des siècles, mais cela ne représente pas la réalité du califat tel qu'il existe à l'époque.
Oui, en fait, c'est un cas très particulier Al-Andalus, parce qu'on voit bien que cette culture arabe va se matiner d'un tas d'influences autres, notamment d'influences wisigothiques, on le retrouve même dans l'architecture, et que finalement, pour les Arabes ou pour les bons musulmans, on pourrait dire, de Mésopotamie, on est très très loin des centres qui comptent. On a parlé à un moment donné de la manche du manteau de l'islam pour désigner Al-Andalus. Donc on est vraiment très très loin des centres.
Alors vous évoquez aussi la question de la culture, de la science, alchimie, algèbre. On doit beaucoup à cette Espagne sur le plan de la science et de la culture, même si les canaux n'étaient pas, enfin le canot d'Al-Andalus n'était pas le seul vecteur de la culture, notamment grecque. Venons-en, si vous le voulez bien, à la chute de l'émirat de Grenade. C'est un moment, et on ne se le représente pas, qu'il y a un moment géopolitique extrêmement important, parce que au fond, la chute de Grenade, c'est l'ouverture d'un détroit de Gibraltar, qui change la géopolitique, alors que nous étions dans un monde tourné vers la Méditerranée. Nous nous tournons vers un monde qui est atlantique.
Et les saints le comprennent très bien avec la date, en fait. La chute de Grenade a lieu en 1492. 1492, dans nos esprits en général, c'est bien la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Et bien la même année, les royaumes chrétiens du Nord achèvent ce qui a été appelé plus tard la reconquête de toute la péninsule ibérique. Et avec cette maîtrise du territoire, effectivement, il y a comme un mouvement de bascule de la Méditerranée vers l'Atlantique, et c'est aussi l'année où ils expulsent définitivement les Juifs eh bien de la péninsule également. Et cette chute de Grenade, on pourrait dire qu'elle était finalement assez inéluctable, hein, qu'elle devait arriver, et que c'est un peu par accident que Grenade a perduré aussi longtemps, parce qu'à partir ça faisait à peu près 2 siècles que finalement cette part musulmane était réduite à portions congrues au sein de la péninsule ibérique. Finalement, c'est un peu la désorganisation des royaumes chrétiens qui a retardé cette conquête, mais elle a bien fini par arriver. Et effectivement, les rois chrétiens vont aussi se tourner à ce moment-là vers d'autres horizons, et notamment plein ouest, vers l'Amérique. Et c'est le début d'une autre histoire, en fait, qui commence.
Alors, dans les questions vraies ou faux, vous avez utilisé le terme de reconquête. Or, le terme reconquête date non pas du Moyen-Âge, mais de la fin du XVIIIe siècle. On parle davantage de restauration. Et cette idée de restauration est très importante parce qu'elle pose la question de l'identité de l'Espagne. Et c'est une question que vous n'éludez pas, qui est traitée dans un article qui est extrêmement intéressant, qui s'intitule « Le passé controversé de l'Espagne médiévale » de Benoît Pellistrandi. En gros, il y a deux thèses qui s'affrontent. Soit le monde musulman, ces 8 siècles, ont été simplement une parenthèse, soit au contraire, ils font partie intégrante de l'histoire de l'Espagne.
Ben ça, c'est effectivement un débat qui agite beaucoup nos amis espagnols. Notamment depuis le 19e siècle, mais ça a aussi pu être très présent au 20e siècle, de savoir quelle place donner à cette histoire d'Al-Andalus. Alors certains vont plutôt puiser dans les sources du royaume visigothique l'âge d'or, l'heure de gloire de l'Espagne, qui finalement a fini par ressurgir quelques siècles plus tard. Et puis d'autres vont au contraire mettre en avant, parfois d'une façon un peu simpliste, hein, l'Espagne des trois religions qui fait partie de l'histoire nationale. Et derrière, c'est aussi toute la place, je pense, de eh bien du christianisme dans l'histoire espagnole qui est aussi en débat, et on a aussi tendance à projeter sur cette histoire-là nos propres problématiques d'aujourd'hui, hein, notamment le rapport aux musulmans, le rapport aux autres religions. Donc ce qui fait que le débat peut être parfois un peu crispé, mais là on s'est bien rendu compte, hein, que la réalité était finalement bien plus complexe que cela. En fait, moi, c'est ça qui m'a frappé en préparant ce dossier, hein, c'est que ce ne sont pas des entités simples qui cohabitent, qui coexistent, mais des réalités beaucoup plus mouvantes et puis aussi assez poreuses, hein. Un autre article parle du cas de la reine Toda, qui était une reine chrétienne, mais dont finalement le neveu était calife de Cordoue. Voilà, donc ça montre bien les interactions qui pouvaient exister.
Codex, 2000 ans d'aventure chrétienne. Je renvoie aussi nos auditeurs au cahier pédagogique qui est extrêmement intéressant pour les professeurs sur la révolution industrielle. Et bien évidemment, vous mettez en avant toute la contribution du monde chrétien à la législation sociale en France. C'est assez impressionnant. On découvre beaucoup de choses. Il y a notamment une sorte de calendrier avec une présentation des différentes interventions et des différentes législation, enfin texte de loi lié à la doctrine sociale de l'Église qui est en plein essor, qui a été défini par Léon XIII. Vous allez aussi aux périphéries de l'Église, hein, comme le dirait le pape François, puisque vous parlez de l'Éthiopie. On n'a pas conscience que l'Éthiopie est un des premiers royaumes chrétiens où vous présentez ce qu'on appelle la fête orthodoxe de Mesquel. Alors il y a une autre périphérie, mes amis bretons vont me blâmer, mais ils peuvent aller à l'école de Saint-Patrick à Loupderc. Je renvoie nos auditeurs à la livraison de Codex. Il s'agit du numéro 8 de l'été 2018 de ce trimestriel. Merci beaucoup, Priscille.
Merci, Christophe.
Et rendez-vous dans 3 mois pour un nouveau numéro de Codex.